Bienvenue à tous sur France Culture, il est midi et demi. Le journal avec Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. En France, le taux de chômage est à son niveau le plus bas depuis 11 ans, avec 8,1% des actifs au quatrième trimestre 2019. Analyse de ces chiffres dans un instant avec Damien Mestre.
Deux piliers de la commission des finances de l'Assemblée interpellent l'exécutif sur l'impact budgétaire de la réforme des retraites.
Oui, les deux députés LREM de cette commission, Émilie Cariou et Laurent Saint-Martin, ont envoyé une lettre pour questionner Édouard Philippe sur les impacts budgétaires de la réforme. Analyse à suivre avec Stéphane Robert dans un instant, alors que le Premier ministre recevait ce matin les syndicats, on les entendra.
Dans votre journal également, Sophie Delpont, en Chine, le nombre de personnes contaminées au coronavirus a été multiplié par 10 en seulement 24 heures. Reportage à suivre avec Dominique André.
Nous irons aussi en Italie où Matteo Salvini, le chef de l'extrême droite italienne, a été renvoyé devant la justice par le Sénat, accusé de séquestration de personnes pour avoir bloqué un bateau de migrants au large de la Sicile quand il était ministre de l'Intérieur. Et puis comme tous les jeudis, nous accueillerons l'invité politique de la rédaction. Aujourd'hui, ce sera Jeanlin Lacapelle, député européen du Rassemblement National, en direct et en duplex du Parlement de Strasbourg. Et puis dans la grande table des idées, dans 25 minutes, Olivia.
Qui veut encore de notre universal la bataille des valeurs? On en parlera avec notre invité, la philosophe Chantal Delsol. Elle publie aux éditions du Cerf le crépuscule de l'universel.
À tout à l'heure. Le taux de chômage en France est à son niveau le plus bas depuis 11 ans, selon les normes du Bureau international du travail, le BIT, qui s'appuie sur les chiffres de l'INSEE ce matin pour le quatrième trimestre 2019, le trimestre qui va d'octobre à décembre dernier. Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques, 8,1% pour la France métropolitaine et les départements d'outre-mer, à l'exception de Mayotte, voilà pour le taux de chômage. Damien Mestre, bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez regardé ces chiffres dans le détail pour comprendre les raisons de cette embellie sur le front de la bataille du chômage.
Oui, et c'est le début d'une nouvelle bataille de chiffres pour savoir à qui ou à quoi attribuer cette amélioration. Parce que vous l'avez dit, le taux de chômage n'a jamais été aussi bas depuis la fin 2008, période qui correspond à la crise des subprimes. En plus de ça, ce taux de chômage à 8,1% profite à presque toutes les catégories. Le chômage de longue durée est en baisse, même chose chez les plus de 50 ans. Dans le détail, il y a bien des difficultés encore chez les 15-24 ans, par exemple. Pour eux, le taux de chômage augmente et se fixe à 20%. Mais globalement, les chiffres s'améliorent et l'éternel débat entre politique de l'offre et politique de la demande ressurgit. D'un côté, certains économistes attribuent cette baisse du chômage au fait que cela coûte moins cher de recruter. 210 000 créations d'emplois dans le privé en 2019, ce serait selon eux le résultat des mesures prises depuis 2016 pour baisser le coût du travail. On pense notamment à la transformation du CICE en allègement de cotisations patronales. Mais de l'autre côté, côté demande, certains économistes évoquent la hausse du pouvoir d'achat obtenu par les gilets jaunes, baisse de la taxe d'habitation, prime d'activité. Ces mesures annoncées en réponse au mouvement social auraient dopé l'activité. Quoi qu'il en soit, tout cela reste éminemment politique. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, l'a rappelé ce matin. L'objectif du quinquennat d'Emmanuel Macron est de faire passer le chômage sous la barre des 7% d'ici 2022. La bataille ne fait donc que commencer.
Merci Damien Mestre pour toutes ces précisions. Un objectif que la ministre du Travail a jugé atteignable, 7% en 2022, selon les mots de Muriel Pénicaud ce matin. Une bonne nouvelle économique largement mise en avant par le gouvernement, car Édouard Philippe recevait aussi en parallèle ce matin les syndicats à Matignon pour un ultime rendez-vous pour clôturer la phase dite de concertation voulue par l'exécutif avec les partenaires sociaux par rapport à la réforme des retraites. Nouveau point d'étape donc pour le Premier ministre sur le front de cette réforme difficile dont le débat doit commencer dans l'hémicycle lundi après le très partiel examen en commission spéciale qui s'est achevé mardi sans parvenir au bout de l'examen des plus de 22 000 amendements qui avaient été déposés par l'opposition. Ce matin donc à Matignon, Édouard Philippe recevait les syndicats autour de plusieurs questions encore cruciales sur la table. La transition entre l'ancien et le futur système de retraite voulu par le gouvernement, le minimum de pension, l'emploi des seniors, la prise en compte de la pénibilité. Catherine Pétillon.
Oui, bonjour. La réunion vient juste de se terminer. Alors en résumé, quelques précisions et avancées, de gros points de blocage et beaucoup de sujets encore renvoyés à la conférence de financement qui doit se tenir la semaine prochaine. C'est à elle que reviendra, disait François Asselin de la CPME, d'être le juge de paix. Alors sur le minimum que touchera un retraité, 1000 euros minimum avec un horizon de 85% du SMIC, l'augmentation demandée par les syndicats est renvoyée à cette conférence. Donc sur les fins de carrière, les syndicats sont contents de l'ouverture aux fonctionnaires et aux cadres au forfait jour de ce dispositif qui permet de travailler à temps partiel et de toucher en partie sa pension. Le gros point de contentieux, c'est la question de la pénibilité. S'il faut travailler plus, encore faut-il être en état de le faire. Si certains reconnaissent des avancées sur la prévention et les reconversions, le grand problème, c'est quels métiers seront reconnus comme pénible et ouvriront droit donc à éventuellement des compensations comme partir plus tôt. Et là, tout le monde se renvoie la balle sur qui va payer. La question, c'est finalement, la CFDT en tête, les syndicats parlent de blocage du patronat, appellent le gouvernement à prendre ses responsabilités. Dans le fond, c'est qui paiera. Le patronat en a fait un point d'opposition, exige un chiffrage complet des mesures. Le Premier ministre doit s'exprimer d'ici quelques minutes. Dans la journée, il enverra par écrit le détail des propositions et avancées aux différents partenaires sociaux. Les points de consensus ont jusqu'à demain, Sophie, pour faire l'élément d'amendement qui seront discutés dès lundi dans l'hémicycle.
Merci Catherine Pétillon, direct de Matignon pour France Culture avec Hélène Langlois pour les moyens techniques. Alors qu'Edouard Philippe tentait de convaincre ce matin les syndicats, le Premier ministre doit aussi répondre aux questions de deux députés La République En Marche qui lui ont envoyé un courrier lundi avec pas moins de 16 questions sur le financement de la réforme des retraites. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors certaines questions dans leur contenu très critique auraient pu être rédigées par l'opposition. Pourtant ces deux députés à l'origine du courrier sont deux fidèles macronistes et pas des moindres.
Oui, vous l'avez dit, ce sont deux députés de la majorité, membres de la commission des finances à l'Assemblée, Émilie Cariou, députée de la Meuse, et Laurent Saint-Martin, élu dans le Val-de-Marne. Ils ont envoyé leur courrier au Premier ministre mardi, courrier dans lequel ils listent leurs interrogations sur comment le gouvernement prévoit de financer les mesures de compensation annoncées ces dernières semaines en direction de différentes professions. Par exemple, les enseignants, on veut revaloriser leur salaire pour qu'ils ne soient pas trop perdants quand ils toucheront leur retraite. Comment finance-t-on ? Concernant les avocats, à qui on a promis pour essayer de les calmer, des abattements spécifiques, quelles seront les répercussions financières de ces abattements ? Au total, vous l'avez dit, il y a 16 questions de ce type dans le courrier, et ces deux députés de la majorité s'inquiètent. Rien n'est clair, s'agace Émilie Cariou dans des propos cités par le journal Le Monde, et on est là déjà, reprend-elle, sur un paquet de milliards d'euros. Interrogé ce matin sur cet inquiétant courrier, le délégué général du parti La République En Marche, Stanislas Guérini, a eu bien du mal à fournir ce matin un début d'explication.
Des députés de la commission des finances demandent des précisions sur tel ou tel point de la réforme. Et alors, on leur dit, ah ben c'est parce que vous n'avez pas confiance dans la réforme. Mais pas du tout. Les députés, ils font leur boulot de députés. C'est-à-dire qu'ils demandent des précisions sur certains points de la réforme. C'est le job des députés de faire ça.
Il n'y aurait donc pas d'inquiétude, ils posent des questions, ils sont dans leur job. Seulement, ces questions viennent s'ajouter à d'autres questions qui n'ont à ce stade toujours pas obtenu de réponse. Le Conseil d'État, le 24 janvier dernier, avait déjà pointé les projections financières lacunaires du projet de loi. Il y a également le cafouillage intervenu il y a deux jours sur la valeur du futur point retraite. Il est apparu que le gouvernement souhaite l'indexer sur le revenu moyen d'activité, un indice qui n'existe pas encore. Et puis on sait que le financement global du projet de loi reste suspendu aux discussions entre partenaires sociaux qui débuteront dans le cadre d'une conférence de financement prévue à partir de mardi de la semaine prochaine. Bref, effectivement, rien n'est clair, pour reprendre les propos de la députée Émilie Cariou, ce qui donne l'impression d'une très grande improvisation du pouvoir exécutif et fragilise un peu plus encore un projet de loi qui reste toujours contesté dans l'opinion.
Merci Stéphane Robert, chef du service politique de France Culture. Selon un sondage IFOP pour le journal L'Humanité, ce matin, 67% des personnes interrogées seraient favorables à un référendum sur le projet de loi des retraites. Sondage réalisé après la publication d'une tribune lundi dans le journal réclamant un référendum. Loin de Paris, pendant ce temps, Emmanuel Macron achève aujourd'hui son déplacement en Haute-Savoie. Une belle opération de communication, selon les mots du numéro 1 d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, alors que le chef de l'État doit annoncer à la mer de glace, et parle encore en ce moment, des mesures de protection du Mont-Blanc menacées par le réchauffement climatique, mais aussi par le comportement de très nombreux visiteurs. Pierre Neveu, bonjour.
Bonjour.
Le chef de l'État clôt ainsi une séquence dont il voulait faire un moment fort, marqueur d'un tournant écolo qui se fait attendre.
Alors, il y a le symbole et le signal politique. Le symbole, c'est celui d'un homme, Emmanuel Macron, au pied d'un massif alpin qui étouffe à Chamonix, dans la vallée de l'Arve, l'une des vallées les plus polluées de France. Ce que l'on retiendra de cette séquence ce matin, au pied du massif du Mont-Blanc, ce sont ces images du chef de l'État dans un tunnel bleuté creusé dans le glacier. C'est le signal politique pour imprimer son ambition verte sur ce quinquennat, l'écologie enjeu majeur de société et des prochains scrutins, commencés par les municipales dans un mois. Depuis une demi-heure maintenant, le chef de l'État dresse le bilan de son action. Il a appelé à une vraie stratégie de transition européenne et mondiale en présentant un calendrier 2020 consacré à la biodiversité. Nous devons nous aussi être exemplaires, dit le chef de l'État, en protégeant 30% de nos territoires, en changeant nos pratiques agricoles sans perdre notre souveraineté. souveraineté alimentaire. C'est un combat pour notre propre survie. Mais le véritable temps fort de ce tournant vert du président, ce sera début avril, au moment de la restitution de la Convention citoyenne sur le climat. Le chef de l'État a promis de se saisir sans filtre de l'intégralité de ses propositions, en passant, s'il le faut, par la voie d'un référendum. Il y a un peu plus d'un an, rappelez-vous, au moment de la crise des Gilets jaunes, le chef de l'État reconnaissait déjà toute la complexité de réconcilier les Français qui évoquent la fin du monde et ceux qui ne pensent qu'à la fin du mois.
Merci Pierre Neveu pour toutes ces précisions. Il est midi et 41 minutes sur France Culture. Comme tous les jeudis, c'est le moment de l'interview politique. Nous recevons aujourd'hui Jeanlin Lacapelle, eurodéputé du Rassemblement National, en direct et en duplex du Parlement de Strasbourg. Bonjour.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Anne Fauquemberg du service politique de France Culture. Bonjour Anne.
Bonjour.
Alors première question, la France atteint son plus bas niveau de chômage depuis 2008 avec près de 8%. Cela signifie que la politique économique d'Emmanuel Macron porte ses fruits?
Oui, non, je vais surtout recommander au gouvernement beaucoup d'humilité et puis surtout qu'il partage ses chiffres entre l'INSEE et ceux du ministère du Travail qui ne semblent pas les mêmes, parce que 8,1%, c'est déjà encore beaucoup, c'est plus de 6 millions de chômeurs en France. Quand on sait qu'on a 9,5 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, 1000 euros, je crois qu'il ne faut pas sauter et monter sur la table. Mais quand vous regardez les chiffres du ministère du Travail, et j'encourage vos auditeurs à faire cet exercice, entre juin 2017, le début de la mandature de M. Macron, et fin 2019, il y a 60 000 chômeurs supplémentaires. Ce sont les chiffres du gouvernement, les chiffres du ministère du Travail. Donc moi, je ne saute pas au plafond. On est en train de nous parler d'un seuil qui n'a jamais été aussi bas depuis 10 ans. Moi, je vais vous donner un autre chiffre depuis 10 ans, avec les boîtes du CAC 40 que nous subventionnons de manière très généreuse. Ils ont supprimé 150 000 postes depuis 10 ans. Ils en ont créé 230 000, mais à l'étranger.
Une question d'Anne Fauquemberg.
Tant qu'on n'arrêtera pas les délocalisations de ces grandes boîtes, tant qu'on n'arrêtera pas les traités de libre-échange qui créent une concurrence déloyale, et tant qu'on ne supprimera pas la directive des travailleurs détachés.
Alors justement, Jeanlin Lacapelle,
emplois,
je vous coupe.
Qui viennent aujourd'hui, malheureusement, se switcher à nos rechercheurs d'emploi français, eh bien, on ne réglera pas le problème.
Exactement. Donc, vous êtes à Strasbourg. Vous nous parlez justement depuis Strasbourg, puisque vous venez d'entrer au Parlement européen. Vous venez de parler de la directive sur les travailleurs détachés. Vous venez d'entrer au Parlement européen à la faveur du Brexit et du départ des eurodéputés britanniques. Avant de parler peut-être aussi des municipales, votre impression en deux mots, vous participez ces jours-ci à votre première session plénière.
Oui, tout à fait. Alors, mais vous venez de le dire, je suis rentré parce que le Brexit s'est appliqué. Cela fait plus de trois ans, qu'un peuple qui s'appelle le peuple britannique, qui va par voie de référendum, avait donc décidé de quitter l'Union européenne. Et ça fait plus de trois ans que l'Union européenne a tout fait pour les punir et pour freiner cette sortie. Donc je suis content qu'enfin le peuple ait été écouté et non pas, et que sa parole n'ait pas été bafouée comme elle l'eût été ces derniers mois. Donc je rentre à la faveur en effet de ce Brexit, qui est une véritable claque quand même pour l'Union européenne. Ça démontre bien qu'il y a des grandes nations qui se préfèrent à l'extérieur. Je rappelle aussi qu'on avait tout de même prédit une tempête de sauterelles en Grande-Bretagne lorsque le référendum il y a trois ans avait donc basculé du côté du oui pour le Brexit. Finalement, tout se passe bien. Il y a 3,5% de chômeurs en Grande-Bretagne et je pense que la politique de Boris Johnson sera très dynamique. Quant à mes impressions personnelles, eh bien écoutez, elles sont elles sont positives personnellement parce que le fait que ce Brexit s'applique permet au groupe Identité et Démocratie dans lequel je siège d'être le quatrième groupe, donc, et le premier groupe d'opposition. Donc, il se renforce en quelque sorte, et il va pouvoir nous renforcer dans notre influence aujourd'hui pour pouvoir changer l'Union européenne de l'intérieur comme nous souhaitons le faire.
Alors, vous gardez votre casquette de délégué national au sein du RN et de porte-parole. Et justement, parlons des municipales maintenant. Marine Le Pen, elle est en tournée actuellement. Elle sera dans le Gard ce week-end à Nîmes puis à Sète. Et puis, on l'a vu, Marine Le Pen, dans une photo qui a été très relayée, elle a embrassé un chien sur un marché en Bretagne à l'occasion de cette tournée. C'était début février. 2,2% des Français ont voté pour le parti animaliste aux européennes. Justement, 500 000 personnes, c'est à peu près autant que le Parti communiste. Très clairement, vous souhaitez agréger cette nouvelle clientèle électorale?
Non, vous savez, Madame Marine Le Pen, notre présidente, a passé l'âge de faire du racolage. Elle a toujours soutenu la protection des animaux et elle a elle-même plusieurs chats et elle l'a jamais caché. Donc il y a aucun racolage de notre part. Le Rassemblement national est le premier parti politique de France. Il est le premier parti d'opposition au système Macron. Je vous rappellerai que nous avons gagné les élections européennes dernières malgré 35 listes présentes lors de ce scrutin et qu'aujourd'hui nous avons une ambition très forte au municipal avec trois objectifs. Le premier, c'est
avec une percée aux dernières européennes du vote écologiste tout de même, et cette photo, n'est-ce pas, et du parti animaliste aussi, et cette photo, n'est-ce pas une façon aussi de masquer quelques difficultés aussi dans cette campagne municipale, notamment celle de la professionnalisation de votre personnel politique. Il y a eu l'épisode de Strasbourg avec ce candidat rattrapé par son passé raciste, et puis ces derniers jours, la vidéo virale d'un autre candidat, celui de Port-la-Nouvelle en Occitanie, vous l'avez sûrement vu cette vidéo, il exprime ses opinions anti-migrants, c'est votre ADN au sein du RN, mais il le fait vraiment sans le moindre filtre. Vous qui êtes DRH de profession, qui êtes le DRH aussi du Rassemblement National, comment vous réagissez? Comment c'est possible aussi de laisser passer ces profils?
Non mais madame, vous savez, chacun a des profils et des difficultés dans tous les mouvements, parce qu'il faut aller voir ce qu'il se passe aussi chez nos voisins. Nous avons, nous, un avantage, c'est lorsque quelqu'un commet un dérapage ou une erreur, il est traduit en commission de discipline et il y a une sanction immédiate qui est prise par les instances.
Et pour ce candidat de Port-la-Nouvelle, comment vous avez empoigné ce dossier?
Mais, écoutez, je ne suis pas moi président de la commission de discipline, mais je crois qu'il est convoqué dans les instances et les choses... suivent leur cours. Mais il n'y a pas de difficulté dans la conduite de l'élection municipale par le Rassemblement National. Au contraire, si le ministre...
Alors, pas de difficulté, mais financièrement, c'est compliqué pour le parti. En allant sur le terrain, on se rend compte que les candidats RN, ils ont moins de budget pour faire campagne que les autres partis politiques. C'est un problème quand même.
Mais ça, c'est un problème, mais c'est un problème de démocratie. Je vous rappellerai qu'Emmanuel Macron, quand il est arrivé au pouvoir et dans sa campagne, avait fait une promesse, la banque de la démocratie. Ce projet avait été porté par Monsieur Bayrou. Aujourd'hui, le Rassemblement National n'a pas une seule banque à qui pas une seule banque qui lui prête de l'argent. Donc notre difficulté, elle est financière aujourd'hui, parce que nous sommes dans un pays qui se dit démocratique et pas une seule banque ne prête des moyens financiers au premier parti d'opposition.
Alors il y a un problème de financement de la démocratie, mais il y a aussi les affaires. Le RN a été saisi de 2 millions d'euros en 2018 et cette fois-ci, vous êtes convoqué par une juridiction russe, pardon, ça sera en juin prochain. Vous allez faire comment pour rembourser les 9 millions d'euros réclamés par la firme russe qui vous a prêté de l'argent en 2014?
Oui, mais nous, le remboursement a commencé. Il n'est pas à hauteur de ce qu'il était prévu dans l'échéancier. Et nous avons, je crois que vous l'avez entendu ces derniers jours, notre présidente l'a dit, nous sommes en train de lancer un grand emprunt national. Et nous allons, là aussi, une fois de plus, puisque les banques ne sont pas avec nous, puisque le système n'est pas avec nous, nous allons demander, comme lors des européennes, à nos électeurs, même à des gens qui ne sont même pas électeurs, tout simplement, aux patriotes français, nous allons leur demander de nous aider et de souscrire à cet emprunt qui permettra, tout simplement, de pouvoir continuer à faire vivre la démocratie et faire vivre le Rassemblement National. Mais je ne voudrais pas, quand même, réduire cette interview uniquement aux affaires. J'espère qu'on peut parler aussi du fonds politique des municipales, avec des objectifs très clair de la part de notre mouvement. Je pense que nous allons garder toutes les mairies qui ont été gagnées en 2014. Il y a un sondage très clair que vous pourriez évoquer. 72% des administrés des communes conduites par des maires Rassemblement National se disent très satisfaits. Donc non seulement nous allons gagner les mairies dans lesquelles nous sommes à la tête, mais nous allons gagner beaucoup d'autres mairies.
Nous arrivons à la fin de cette interview, excusez-moi.
Pardon ?
Darmois, à la fin de cette interview, j'en ai un qu'appel pour des questions de format, évidemment.
Mais oui.
Donc à retrouver internet, sur franceculture.fr, l'intégralité de cet entretien. Merci
mais
à vous.
Mais vous verrez, nos résultats aux élections municipales sont excellents. Et je crois que c'est pour ça que nous faisons un petit peu peur aujourd'hui.
Avec 600 candidats investis, ce qui est stable par rapport à la dernière municipale.
Oui, mais nous ne sommes pas dans une course à l'échalote. Nous ne sommes pas là pour la quantité, nous sommes là pour la qualité.
Merci à vous, Jean-Alain Capel, donc en direct de Strasbourg pour France Culture, député du RN, avec Anne Fauquemberg pour vous interroger. Nous partons maintenant en Chine où le nombre de personnes contaminées par le coronavirus a été multiplié par 10 en seulement 24 heures. Avec près de 60 000 malades identifiés selon les autorités et au moins 1355 morts, dont 254 de plus entre hier et aujourd'hui, l'épidémie a bondi. Les autorités soulignent que le virus appelé Covid-19 est mieux dépisté, mais en parallèle, Pékin accentue aussi la purge politique dans les provinces chinoises, dans le Hubei, où se situe l'épidémie, donc l'épicentre de cette épidémie, mais aussi d'autres provinces où les critiques fusent contre les autorités et mettent en danger la stabilité du pays. Reportage à Pékin de Dominique André.
C'était le 30 janvier à Wuhan. Tian Shaoliang, secrétaire général du Parti communiste du Hubei, présente ses sincères condoléances aux familles des compatriotes qui ont perdu la vie. Puis il s'incline et lance « Allez Wuhan, allez Wuhan ». Ses excuses et ses encouragements n'auront pas suffi. L'ancien banquier est limogé ainsi que le plus haut responsable de la ville. Il est remplacé par Ying Yong, actuel maire de Shanghai, un proche et fidèle de Xi Jinping. Expert dans le maintien de la stabilité sociale, Ying Yong a travaillé dans la police et a participé à la répression des chrétiens dans une autre province, le Zhejiang. La stabilité des provinces chinoises est une priorité pour le gouvernement central qui a fait face il y a quelques mois à une autre crise dans son territoire semi-autonome de Hong Kong. La purge touche cette fois le directeur du bureau de liaison entre Pékin et Hong Kong, Zhang Xiaoming, un poste très important. Il n'aurait pas apprécié à temps la situation dans l'ancienne colonie britannique. Son successeur vient de Pékin, c'est aussi un fidèle de Xi Jinping. En 2003, lors de l'épidémie du SRAS, le maire de Pékin et le ministre de la Santé avaient été limogés. C'est un peu tard cette fois, mais c'est mieux que rien, peut-on lire sur les réseaux sociaux.
Dominique André à Pékin pour France Culture. La grande majorité des cas d'infection hors de Chine ont été recensés sur un navire de croisière, le Diamond Princess, amarré au large du Japon, au large de Yokohama, où là aussi le nombre de cas de coronavirus a bondi. 218 passagers sont contaminés, 44 de plus qu'hier, selon le ministre japonais de la Santé. Les ministres européens de la Santé se sont réunis hier à Bruxelles pour mieux coordonner leurs mesures face à l'épidémie. Depuis décembre, une trentaine de personnes dans 7 pays de l'UE ont été identifiées comme touchées par la maladie. Sur franceculture.fr, un entretien retrouvé avec un médecin de l'Institut Pasteur, entretien intitulé « La recherche scientifique a fait autant en 4 semaines qu'en 4 ans contre le sida à propos du coronavirus ». Nous partons maintenant en Italie où Matteo Salvini, le chef de l'extrême droite italienne, a été renvoyé devant la justice par le Sénat hier, accusé de séquestration de personnes pour avoir bloqué un bateau de migrants au large de la Sicile quand il était ministre de l'Intérieur. Matteo Salvini qui était à l'offensive ce matin, pose de Galzin.
Ils sont plusieurs centaines à avoir fait le voyage cette nuit de leur île natale pour protester contre les décisions du gouvernement. Aliki, ingénieur, la cinquantaine, tient avec ses deux amis un panneau où l'on peut lire « Désengorger les îles ».
Devant la presse et
vous avez compris que ça n'était pas le bon reportage. Nous partons tout de suite en Italie où Matteo Salvini, le chef de l'extrême droite italienne, est passé à l'offensive ce matin, Bose de Galzin.
Devant la presse étrangère, Matteo Salvini se défend calmement. L'ex-ministre de l'Intérieur affirme que le choix de bloquer le navire en mer pendant 5 jours était connu du gouvernement. Le président du Conseil, lui, dément. Matteo Salvini estime même que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui l'Union européenne s'organise pour répartir les migrants.
Si aujourd'hui l'Union européenne répond quand quelqu'un l'appelle d'Italie, c'est parce que pendant un an c'est moi qui me suis démené. Et j'estime qu'impliquer les 27 dans le contrôle des frontières de mon pays, c'est le devoir d'un ministre.
Et Matteo Salvini le revendique. Tout le monde savait que j'étais au pouvoir pour bloquer les navires de migrants. Il estime d'ailleurs que son procès n'est pas pour demain.
Attention, je ne suis pas encore en procès. Le vote d'hier permet d'envoyer au tribunal de Catania le dossier à instruire. Mais le plus absurde, c'est qu'il le renvoie au tribunal qui a déjà enquêté et n'a pas donné suite, car il n'y avait pas d'infraction. Et donc j'imagine qu'ils devront en trouver un autre et pas le même. Sinon, ce sera une blague.
Même si Matteo Salvini est bel et bien poursuivi, le procès pourrait prendre des années. Et quand on lui demande si la justice n'a pas trop de pouvoir en Italie, il joue l'ironie.
Je prends la liberté de ne pas répondre parce que tout ce que je dirais pourrait être utilisé contre moi.
Devant la presse italienne, Matteo Salvini n'hésite pas à dénoncer un procès politique mené par des juges gauchistes.
Nous partons maintenant en Grèce où l'enjeu des migrants est au cœur de l'actualité aujourd'hui à Athènes. Responsables politiques et habitants des îles grecques de Lesbos, Chios et Samos manifestent dans la capitale contre le plan du gouvernement. Ce plan prévoit de construire de nouveaux camps d'accueil des migrants sur leurs îles, des camps pouvant accueillir jusqu'à 25 000 personnes. Ces opposants se sont rassemblés devant le ministère de l'Intérieur, donc contre ce projet. Avec donc le gouvernement et les îles du Nord, le dialogue est rompu, Angélique Kourounis.
Ils sont plusieurs centaines à avoir fait le voyage cette nuit de leur île natale pour protester contre les décisions du gouvernement. Aliki, ingénieur, la cinquantaine, tient avec ses deux amis un panneau où l'on peut lire « Désengorger les îles ».
On veut que Moria ferme, car c'est une honte pour notre île, qu'aucun autre camp ne soit construit et que les réfugiés et migrants puissent partir sur le continent avec des papiers légaux. Et de là, qu'ils aillent où ils veulent. Et que ceux qui restent soient intégrés dans la société grecque et pas exclus sur des montagnes arides ou dans un camp perdu au milieu de nulle part.
La situation sur les îles et particulièrement à Lesbos est explosive. Les 5 camps d'identification peuvent accueillir au total 6 200 personnes alors que plus de 30 000 s'y entassent, 16 000 rien que dans le terrible cloaque de Moria Lesbos. La semaine dernière, l'île a connu 2 jours d'émeutes sans précédent où la police a chargé les familles de migrants qui protestaient contre leurs conditions de vie. Le gouvernement de son côté a multiplié les mesures visant à décourager les nouvelles arrivées, construction de camps fermés, surveillance accrue des frontières, mise en place de barrières flottantes au large de Lesbos, accélération des renvois et procédures d'examen express pour les demandes d'asile. Selon le porte-parole du gouvernement, 20 000 personnes devraient être expulsées vers la Turquie dans le courant de l'année à raison de 200 par semaine, une mesure dénoncée par toutes les ONG pro-réfugiés. Les habitants des îles, eux, s'opposent très fermement à la réquisition de leurs terres pour la construction des nouveaux camps et annoncent un durcissement de leur mobilisation.
Angélique Kourounis à Athènes pour France Culture. Un point de météo très rapide. 6 départements en alerte orange. Vague submersion. L'alerte concerne le Nord, le Pas-de-Calais, Seine-Maritime, Manche, Calvados et l'Eure. De la pluie partout cet après-midi, température comprise entre 8 et 15 degrés. C'est la fin de cette édition préparée avec Nicolas Paumet.